Le journal est présenté par Margot Delpierre.
Et il est 8h. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Conséquence de l'allègement des mesures de restriction liées à l'épidémie de Covid-19, les messes peuvent reprendre. Les catholiques retournent à l'église à l'occasion du premier week-end de l'Avent, mais les places sont rares. Le gouvernement a imposé une limite de 30 personnes par église, ce qui a suscité beaucoup d'incompréhension. Les avocats de la Conférence des évêques de France ont dénoncé hier devant le Conseil d'État cette limitation, une mesure non nécessaire, disproportionnée et discriminatoire. Selon eux, à l'église Saint-Symphorien de Versailles, la limitation n'est d'ailleurs pas respectée, Nathalie Domenego.
Les bancs sont à nouveau mis en place selon le strict protocole.
Chaque personne s'assoit sur un point rouge.
Yves Genouville est le curé de la paroisse.
Là, il y a une personne, là, il y a une personne.
Une personne par rangée au lieu de 6, soit au total...
L'église ici qui fait à peu près 560 mètres carrés. Je divise 560 par 4, je crois que j'arrive à 139,5 et moi je pose une limite à 130.
130 fidèles par office.
Les personnes qui sont confinées ensemble, je suis pas obligé de les séparer pendant la messe, ça n'aurait pas beaucoup de sens.
Et pour ne pas dépasser les quotas de 130 personnes, le père Genouville a mis en place un système d'inscription en ligne.
Il y a 12 messes ce week-end au lieu de 6 d'habitude. Toutes les messes sont indiquées, le nombre de places par messe qui reste. Et une fois qu'une messe est pleine, là la messe de dimanche 11h est pleine, on ne peut plus s'inscrire.
Des places sont également prévues pour ceux qui n'ont pas accès à Internet. Reste que 130 personnes maximum dans cet édifice, on est donc loin des 30 imposés par le gouvernement.
C'est pas républicain ce chiffre de 30, je suis désolé, parce que c'est m'obliger de choisir des gens qui ont le droit de pratiquer et ceux qui n'ont pas le droit. On vous donne des instructions qui ne sont pas applicables, vous en prenez d'autres.
Ou alors, avec un quota de 30 personnes, il aurait fallu prévoir plus de 50 messes ce week-end dans cette église pour que tous les fidèles puissent y assister.
Hier, c'était au tour des petits commerces de rouvrir. Coiffeurs, vendeurs de vêtements, libraires, les clients ont pu rentrer dans les boutiques, mais en appliquant la règle d'un client pour 8 mètres carrés de surface pour rattraper quelques ventes. Après un mois de reconfinement, et cela à l'approche des fêtes de fin d'année, les commerçants auront le droit d'ouvrir leurs magasins tous les dimanches de décembre jusqu'à 21h. L'ouverture dominicale est un sujet qui divise, mais pour cette fois, syndicats et commerçants enterrent la hache de guerre, Philippe Lefebvre.
Le travail du dimanche est effectivement très encadré et en temps normal, il n'existe que 3 cas de figure. Tout d'abord, les commerces alimentaires ainsi que les hôtels et les restaurants bénéficient d'une autorisation permanente d'ouverture le dimanche. Ensuite, les commerces se situant dans les zones touristiques à Paris, Cannes, Nice et Deauville peuvent également ouvrir leurs portes le dimanche sous réserve de l'accord des salariés. Enfin, il y a ce que l'on appelle les dimanches des maires. Les élus ont en effet la possibilité, au niveau strictement local, de laisser travailler les commerçants durant seulement 12 dimanches dans l'année. Alors pour les prochaines fêtes de fin d'année, les préfets ont reçu des instructions du gouvernement pour autoriser tous les commerces à ouvrir le dimanche pour relancer l'activité après le confinement, et ce jusqu'au 20 décembre. Si bien entendu, les salariés des magasins sont volontaires pour travailler ces jours-là, moyennant une prime allant de 30 à 100% de leur salaire horaire habituel.
Philippe Lefebvre. Le ministère de l'Intérieur dit 133 000, les organisateurs disent 500 000. En tout cas, les manifestants opposés à la proposition de loi sur la sécurité globale étaient nombreux hier, encore plus que la semaine dernière. Ils défendent le droit d'informer alors que l'article 24 du texte qui pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre fait polémique. Ils dénonçaient aussi les violences policières. Ces derniers jours, la vidéo du passage à tabac d'un producteur de musique par des policiers a beaucoup choqué. Camille et Catherine, mère et fille, ont manifesté ensemble à Marseille.
J'avais pas l'impression d'être en France, dans un état de droit. Je me suis dit, heureusement que ça a été filmé. Qu'est-ce qui se serait passé si ce monsieur n'avait pas été filmé? Il serait en prison peut-être aujourd'hui. Et je me suis dit, mais dans quel monde on vit? Donc il y a eu des débordements, mais il y en a eu d'autres. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la police. Il y a des enquêtes qui le montrent. Et aujourd'hui, honnêtement, en tant que citoyenne, je suis inquiète pour ma sécurité, pour celle. Et encore, je suis privilégiée, je suis blanche.
La situation va de mal en pire. On n'a jamais vu ça. On a l'impression de mélanger protection de l'État et dérive autoritaire. Il n'est pas facile d'y voir très clair et je crois qu'il faut absolument rendre visible cette montée de violence qui est complètement anormale.
Et dans le cortège parisien, hier, un photographe syrien qui couvrait la manifestation à titre indépendant a été blessé au visage par un coup de matraque, affirme Reporters sans frontières. De son côté, le ministère de l'Intérieur affirme que 23 membres des forces de l'ordre ont été blessés dans la capitale, 14 autres en région. Le ministre Gérald Darmanin a condamné sur Twitter des violences inacceptables contre les forces de l'ordre. Il faut éviter d'aggraver les tensions au Moyen-Orient, s'inquiète l'ONU. L'Iran soupçonne Israël et les États-Unis d'être derrière l'assassinat d'un scientifique. Cet homme, attaqué vendredi et qui n'a pas survécu, avait développé le programme militaire de l'Iran. Plusieurs scientifiques iraniens ont été assassinés ces dernières années et les Iraniens ont systématiquement accusé les Israéliens. Cette hypothèse est-elle crédible? Les explications à Jérusalem d'Alice Froussard.
La nation iranienne est trop intelligente pour tomber dans le piège de la conspiration mise en place par les sionistes, a dénoncé le président iranien Hassan Rouhani dans une intervention télévisée ce matin, accusant clairement Israël d'être derrière cet assassinat. En effet, éliminer le scientifique, c'est éliminer une partie de la connaissance de l'Iran sur le nucléaire. Sa mort coïncide avec le discours israélien sur la menace iranienne et l'État hébreu a toujours fait savoir qu'il n'hésiterait pas à utiliser la force pour empêcher l'Iran de se doter de l'arme atomique. Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien, avait en 2018 déjà qualifié Mohsen Faridzadeh de directeur du programme nucléaire militaire iranien, disant qu'il fallait, je cite, retenir son nom. Le mode opératoire correspond aussi aux actes clandestins des services israéliens, des assassinats ciblés, jamais clairement revendiqués. Pour le moment, Tel Aviv s'est abstenu du moindre commentaire, mais trois responsables du renseignement ont confié au New York Times qu'Israël serait derrière l'attaque. Et ce matin, la sécurité a été renforcée aux abords des ambassades israéliennes dans le monde.
Au Burkina Faso, le parti de Roch Kabore n'a pas de majorité législative. Le camp du président fraîchement réélu devra négocier avec ses alliés et sans doute l'opposition pour y arriver. En France, un temps gris ce matin dans le quart nord-est du pays. Beaucoup de soleil cet après-midi, sauf dans le Nord-Pas-de-Calais et du côté de Lyon. Comptez 3 degrés à Strasbourg seulement, 6 à Paris, 12 à Brest et 15 degrés à Toulouse.